שאתם ישם עליכם תחיו לאורך ימים טובים שנים נעימים. En cette veille de Pourim, nous allons nous pencher, porter un regard quelque peu nouveau sur la Megillat Esther. Ezanu b'shem Adonai, Osei Shamayim Va'aretz. Chachamim nous dit, dans la Megillat, il est dit que Ahasverosh a déplacé la capitale. Et la mise à Shushan. C'est pour ça qu'il est dit Bayamimahem keshevet amelech Ahasverosh al kisei malchuto asher beshushan abira. Cette précision là, il a placé quand il s'est installé sur son trône qui était à Shushan, la capitale. Et cette précision là est superflue. Donc de là, nous disent Chachamim que Ahasverosh a cherché des artisans qui savaient faire la copie du trône de Shlomo HaMelech, comme il est indiqué dans le Targum Sheni, et il ne les a trouvés qu'à Shushan, et ce trône était impossible de le déplacer, donc il a déplacé la capitale et il a institué la nouvelle capitale à Shushan. Et à ce propos, il est dit que Akadosh Baruch Hu magdim refoua la Maka. Akadosh Baruch Hu a fait précéder, a placé la solution avant que le problème n'apparaisse. Il a donné le remède avant que la maladie ne survienne. Parce qu'à Shushan, plus loin, il est dit Ish Yehudi haya b'Shushan habira ushmo Mordechai. Et cela est répété à plusieurs reprises. Cette idée est mentionnée à plusieurs reprises. Dans la Megillah, quand il est dit que Ahasverosh, après qu'il ait éliminé Vashti, il le regrette, il se lamente, il tombe en dépression, et là, les valets lui conseillent de chercher une nouvelle reine, donc il fait un concours de la plus belle fille du royaume. Là, Esther est prise. Va-t-il akach Esther le'onsa? Nous disent Chazal, elle a été prise contre son gré. Mais malgré tout, elle a été placée, la septième année du règne, elle a été placée au mois de Tevet, elle a été couronnée et reine officielle du royaume. Après cela, il est dit que Mordechai, qui était un des membres de la cour, où il se trouvait continuellement dans Hatsar HaMelech, dans le parvis, à l'entrée du palais royal. Donc il a entendu qu'il y avait deux gardes qui complotaient, donc il a contrecarré le complot de ces deux gardes. Et ça a été inscrit dans le livre des chroniques du royaume. Après cela, c'est seulement après cela, Gidal HaMelech Ahar HaDevarim HaEleh, donc au chapitre 3, Ahar HaDevarim HaEleh, Gidal HaMelech Ahasverosh et Aman Ben HaMedata HaGagi. C'est seulement alors que Aman a été placé au sommet de la hiérarchie des princes et des ministres de Ahasverosh. Pourquoi? Parce que, donc, on voit bien que l'idée de faire précéder la solution au problème. Donc il y a déjà Esther qui est installée, Mordechai a sauvé la vie du roi, et c'est seulement après cela que Aman commence à gravir les échelons et est placé au sommet de son pouvoir. Il arrive à l'apogée de sa gloire. Et c'est là que Mordechai lo ikrav et lo ishtahave, Mordechai provoque Aman, et va causer, entre guillemets, la gzera nora'a de l'extermination de Am Israël par Aman. Donc, tout au long de la Megillah, donc Chachamim nous disent, Igdim refoua la Maka. Cependant, on pourrait s'interroger que c'est l'inverse qui se passe, puisqu'on pourrait avoir une analyse des événements de telle sorte que celui qui a créé le problème, ce n'est pas Aman C'est plutôt Mordechai qui aurait pu s'abstenir de provoquer Aman. Comment? Alors il est dit que l'ordre du roi était que tous ceux qui se trouvent, tous les serviteurs du roi qui se trouvent dans le palais royal, Bahatsaram alors devaient se prosterner, Korim ou Ishtahavim le Aman, devaient se prosterner et honorer Aman par des courbettes, etc. Vers Mordechai, lo ikra, velo ishtahavim. Donc, Mordechai se refuse à cela. Mais la question qui se pose, s'il ne voulait pas se prosterner devant Aman, pourquoi se trouve-t-il à cet endroit-là? Il aurait pu connaître le moment où Aman arrive. Donc, Aman arrive, il y a une fanfare qui annonce son arrivée, les gens se précipitent, etc. Donc, lui, à ce moment-là, il aurait pu se défiler et aller se cacher, attendre qu'il passe. Mais il reste sur place. On trouve cette idée de ne pas être présent, d'aller se cacher, quand. Ça, d'ailleurs, ça a un lien avec la Megillah. Quand Nebuchadnezzar a ordonné, a construit la fameuse idole, statue, Bebik Adourin, et qu'il ordonne à tous ceux qui, aux représentants des nations, de se prosterner. Et là, Hanania, Michaël, Azaria vont consulter le prophète, Hezkiel. Et Hezkiel leur dit, Akash Bokhu ne vous fera pas de messe, si vous ne vous prosternerez pas, vous serez jeté à la fournaise. Alors il leur conseille de se cacher, qu'on ne les trouve pas, d'être absent, de voyager, pour se dispenser d'être mis dans une situation dans le Nissayon. Alors, donc, ça existe, cette idée de ne pas se mettre en danger. Et là, ce n'est pas seulement Mordechai qui se met en danger lui-même, mais il met en danger la nation juive entière. Donc, on pourrait dire que c'est à l'inverse. Akadosh Baruch Hu, il a placé Aman là où le provocateur, là, donc il a donné à. Il a placé Aman là où était Mordechai, justement pour créer, pour que Mordechai. Donc il a placé le problème avant de placer Aman, le problème étant Mordechai. Donc on peut avoir une vision différente. De plus, Mordechai demande à Esther, après que la Gzéra est décrétée, Mordechai demande à Esther essayer. De demander audience au roi, d'essayer d'apaiser les choses, d'arranger les choses. Et Esther lui dit qu'elle se met en danger. Et Mordechai insiste. Il lui dit, si tu t'abstiens, alors la Géoula viendra d'ailleurs, et toi, tu ne sais pas si tu seras sauvé ou pas. Donc il lui fait une menace pratiquement. Donc là aussi, c'est lui qui a le problème et il demande à Esther de trouver la solution. Que serait-il passé si Mordechai s'était prosterné ou s'était défilé? Est-ce que la Gezerah, quoi qu'il arrive, la Gezerah devait-elle arriver? Quel est le sens de cette histoire que la grande Akadosh Baruch Hu a mis Aman dans une situation de pouvoir absolu. Il décrète et fort de son pouvoir, il décrète, il s'en prend, il déteste, il veut mettre sa haine qu'il a dans Am Israël à exécution. Que Chazal nous dit que les blés d'Israël ont participé au Mishté de Shushan, de Ahashverosh. Et c'est pour cela, en partie, que la Xéra a été décrétée. Mais que serait-il passé s'il s'était abstenu d'y aller? Dans la Gemara, les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai lui ont demandé pourquoi une telle Xéra sur cette génération. Alors eux lui ont dit, c'est parce que les Juifs ont participé au festin de Ahasvéros. Alors lui, Rabbi Shimon leur dit, si c'était ça, alors ce n'était que les Juifs de Shushan qui auraient dû qui aurait dû être concerné par le décret. Alors lui, eux, ils lui disent, alors dis-nous toi. Il dit parce que les Bnei Israël se sont prosternés devant la statue de Nebuchadnezzar. Donc c'est une histoire qui s'est passée 50 ans avant. Certes, Hananiah, Mishaël Azariah ne se sont pas prosternés, mais tous les autres représentants des nations juives, de la nation juive, se sont prosternés. Et donc on leur en veut à cause de ça. Donc la Gzéra, elle vient de là. Et s'ils ne s'étaient pas prosternés, alors est-ce que la Gzéra aurait eu lieu? Comment les événements, est-ce que les événements, il y a une hakira, il y a une question qui est posée, qui a été posée à un des Gdolim, et dit comment c'est possible que Abraham Avinu, quand les anges arrivent chez lui, il fait des matzot. Et parce que c'était Pessah. Alors lui, Abraham Avinu, il fait Pessah. Alors comment il peut faire Pessah, alors que Pessah, la matzah, c'est parce que nous étions en Égypte, et qu'après on est sortis. Donc c'est pour cela que la mitzvah a été donnée, c'est pour la sortie d'Égypte. Alors le Gadol a dit, ce n'est pas, est-ce que la question est de savoir, est-ce que nous mangeons la matzah parce que nous étions en Égypte et que nous en sommes sortis, ou bien peut-être nous étions l'inverse. La mitzvah de matzah devait exister, existe dans la Torah 2000 ans avant la création, demi-génération avant la création, puisque c'est une mitzvah de la Torah. Seulement, comment cette mitzvah-là va se réaliser sur terre? Alors, à Kadosh Baruch Hu, parce que nous devions manger la matzah, faire Pessah, donc à Kadosh Baruch Hu nous a mis en Égypte. Donc ce n'est plus la raison de l'Égypte, et la sortie d'Égypte n'est pas la raison pour laquelle nous mangeons la matzah. C'est le fait d'avoir été en Égypte. C'est la conséquence du fait que nous devions de toute façon manger la matzah. Donc il en va de même ici. Est-ce que la Gezera, telle qu'elle est décrétée dans la Megillah, donc à travers les événements, les attitudes, les comportements des uns et des autres, est-ce que ce sont les comportements des individus, de Mordechai, de Haman, etc., qui ont fait que la Gzera, la conjugaison de tous ces événements qui ont fait que Am Israël devait subir une Gzera terrible, et après, à quelque moment, aller produire une Géoula, ou bien non, l'histoire, la volonté divine, l'histoire était qu'il devait y avoir une Gzera, comme dit Rabbi Shimon, aux élèves, les élèves lui ont dit, mais les juifs, quand ils se sont prosternés, ils se sont prosternés devant Dieu, mais ils ont fait semblant de se prosterner à la statue. Et lui aussi, il leur répondit aussi à Kadosh Baruch Hu, il a fait semblant. Il a fait comme si qu'il y avait une Gzera. Officiellement, en fait, la Gzera n'est que le moyen de parvenir à ce qu'il y a après la Géoula, la délivrance, le Nes Gadol. Donc c'est ça l'idée qui est marquée ici. Et dans le Ari HaKadosh, Il nous explique cela de manière avec des termes kabbalistiques. Il dit que la Hashgacha, elle était en somnolence. Pendant le galout, la surveillance que octroie Kadosh Baruch Hu à Am Israël, elle est en somnolence, elle est en sommeil. Donc en apparence, il n'y a pas d'action divine au profit de Am Israël. Comme si que Am Israël était livré à lui-même aux aléas de la situation. C'est le concept même du galout. Alors, et nous sommes à la Megillat Esther, à la fin de l'exil. Et quelque temps après, donc, il va y avoir le retour des exilés, la reconstruction du temple. Quelques années après la fin de la Megillat, est en 3406, et en 4408, 2 ans après ou 3 ans après, le temple, le service du temple, du deuxième temple, refonctionne, commence à refonctionner. Donc c'est le retour, c'est la construction du Beth Amikdash qui se met en marche pour 420 ans, le deuxième temple a duré 420 ans. Donc cela signifie qu'en fait, le Nes de Purim n'est pas à considérer comme un Nes à part entière, comme un Nes, comme étant une entité autonome. Le Nes de Purim, toute la grandeur du Nes de Purim, n'est pas autre chose que l'ouverture vers quelque chose de plus grand. Il n'est que le tremplin, ce Nes-là. Donc, et nous avons la somnolence, la galoute, la somnolence. Comme si que, à Kajvohu, le Esther Pani, à Kajvohu, ce que dit le Hari, la dormita. À Kajvohu est en sommeil. Sa Ashgaha est en sommeil. Alors, le fait que l'Ashgaha est en sommeil, les Juifs sont livrés à eux-mêmes. Donc, ils essaient, ils pensent qu'il est préférable de se prosterner à l'idole. Tout en n'ayant aucune considération à cette idole. Les films, ils ont fait semblant. Après, ils ont consommé, ils ont participé au festin. Donc, ils ont usé de diplomatie. Il faut savoir vivre avec son temps, le roi, etc. Donc, il faut savoir jouer avec... Alors, ils ont mangé cachère. Bon, ils sont tenus un peu à l'écart. Bon, mais ils ont participé. Donc, qu'on ne dise pas qu'ils ne sont pas des citoyens à part entière. Après, tous ces événements-là sont conjugués, sont utilisés par la Providence pour créer le concept de la Gezerah. Pour que nous sentions dans la Gezerah. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la Gemara dit que Haman, il est monté à l'apogée. Akashvoko l'a fait monter tellement haut, justement pour le faire tomber. Plus on est haut, plus la douleur est terrible quand on tombe. Et le miracle est encore plus formidable, extraordinaire. Et c'est ça qui va ouvrir l'issue qui va donner, qui va être une issue, un corridor qui va mener à la reconstruction du temple. Et cette idée-là est aussi mentionnée dans l'année embolismique, quand il y a deux Hadar, la Gemara demande, on aurait dû faire, la logique aurait voulu que le vrai mois de Hadar, c'est le premier Hadar. Donc on aurait dû faire Pourim le premier Hadar. Mais la Gemara dit non, on va faire ça le deuxième Hadar. Pourquoi ? Pour coller les Asmir Geoula les Goula. Pour coller les deux Geoulot. La Geoula de Pourim doit être collée le plus proche possible de la Geoula de Pessah. Quel est le sens de cette idée ? C'est qu'en fait, quand on se projette dans l'histoire et dans la destinée d'Israël, c'est Pourim qui ouvre, qui est l'ouverture qui va permettre à Pessah, le Pessah futur, celui de la Geoula Atida, de se produire. Pourim étant le tremplin, l'événement qui ouvre la voie qui permet à la Geoula, la Geoula finale, la venue du Machiav, de se produire. C'est pour ça que dans la Megillah, il est dit, mais Esther, elle a demandé au Chachamim, « Quittez-vous ni les Dorot ?» Inscrivez-moi pour les générations. Comme il est dit, vous Zicham, ces jours-là, Zicham lo yasuf mizaram. Donc, Atidim, Kola, Hagim, Litbatel. Les Gemara et les Chazal nous disent que toutes les fêtes seront amenées à s'annuler. Pessah sera obsolète, sera un petit miracle par rapport au miracle de la Géoula finale. Donc, il n'y aura plus lieu de faire Pessah. Mais Pourim ne bougera pas de sa place. Pourquoi ? Parce que justement, si la Geoula Atida est possible, il est possible que il y a une possibilité pour Israël de voir la Geoula finale, c'est parce que Pourim a précédé. Pourim, ce concept de Pourim, cette idée du Galout, de l'Esther Panim, de la Gezera terrible, de la détresse dans laquelle nous sommes, et l'ouverture vers la Geoula, le retournement de la situation, ce n'est pas un but en soi. C'est la manière d'agir de la Providence qui ouvre la voie à une Geoula encore plus extraordinaire et magnifique. Et c'est ce que dit Mordechai à Esther. « Ima harechta harishi ba'et azot » Si tu t'abstiens à cet instant, « Revar ve'atzala ya'amod la'yehudim b'makor acher » C'est-à-dire, quand je vous crois, agira d'une autre manière. la volonté divine, la destinée se réalisera, la volonté de Dieu et le projet divin, quels que soient les acteurs de cette Géoula, il se produira de toute façon. Et Mordechai le sait. Ça ne signifie pas que Mordechai agit en ayant conscience. On dit que Mordechai était un Navi, donc il agit de manière prophétique, il sait les événements à venir. Il ne sait pas, mais il a une confiance absolue. Ce qu'il sait, c'est que la Géoula doit jaillir. Alors, quel sera l'acteur, celui qui sera l'acteur par lequel le truchement ou le conduit par lequel cette Géoula va se produire? Alors, le choix est donné à chacun. Ça peut être l'un ou l'autre. Alors, si c'est toi, Esther, lui dit-il, alors tu sauveras le Ram Israël. Mais si tu t'abstiens, si tu t'en dispenses, alors la Géoula viendra d'ailleurs. C'est le sens de la Megillah. C'est pour ça que quand on lit la Megillah, on l'ouvre. La Roth est un S, qui est Igeret. Une guérette, elle s'ouvre. Ce n'est pas un texte de Torah. C'est une saga, mais c'est la saga de la destinée d'Israël. Elle n'est pas seulement pour la génération d'il y a 3000 ans, il y a 2000 ans. C'est pour toutes les générations. Quittez-vous ni les Doroth. Écrivez-moi, instaurez-moi, installez-moi cette Megillah, nous dit Esther au Chachamim, pour les générations. Donc, à chaque génération, la Géoula peut se produire. Mais pour qu'elle se produise, il faut que nous sachions agir et comprendre comment il faut accélérer la Géoula. Et c'est ce que Mordechai s'est affairé à faire. C'est ça l'action de Mordechai. Et après coup, on voit que la Géoula de Pourim, c'est elle qui ouvre la porte au retour des exilés, à la construction du temple, et une nouvelle période que Am Israël retrouve sa souveraineté. Iratson, que Akadosh Baruch Hu yaase lanu nisim, bayamim ha'elu, kemo sha'asa le'avotenu bayamim ha'em. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.